L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Aujourd'hui, la journée nationale du commerce de proximité, c'est demain, on en parle avec les commerçants de Château-Gontier qui jouent le jeu donc demain. Le président de l'association France Alzheimer 53 sera avec nous aujourd'hui. On discute symptômes de la maladie, aide aux malades et aux aidants et progrès de la recherche. Et enfin, dernier épisode de notre feuilleton à la coutellerie du Ménanjou qui est aussi éclusé. 6 mois dans l'année. Mais tout de suite, un point sur l'actualité. Covid-19, la Mayenne placée en zone d'alerte. Le département est placé en rouge depuis hier soir. Le taux d'incidence est en légère hausse et s'établit à 76,6 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité, lui, est de 6,4%. 10 cas Covid-19 sont hospitalisés, mais aucun n'est en réanimation. 3 foyers de contamination, surtout en milieu scolaire, sont comptabilisés. Une situation plus critique encore à Laval, où le taux d'incidence s'élève à 98%. Pour 100 000 habitants. Le préfet de la Mayenne, Jean-Francis Treffel, dit réfléchir à de nouvelles mesures de restriction. Les salariés de Biolaris à nouveau en grève ce matin à Laval. Ils sont 25 venus de Château-Gontier et Ernée rejoindre leurs collègues de Laval depuis 8 heures ce matin pour dénoncer leurs conditions de travail. Déjà mobilisés le 17 septembre dernier, les salariés de Biolaris n'avaient obtenu qu'une hausse de 2% de leur salaire contre 5% demandé. Autre revendication toujours d'actualité, la création de nouveaux postes pour pallier les remplacements et ne plus être à flux tendu. Ce week-end, la crème des pilotes de karting sera à Laval. Les championnats de France de la discipline se tiennent ce samedi et dimanche sur la nouvelle piste de Beausoleil à Laval. 4 titres seront décernés dans les catégories KZ2, KZ2 Master, KZ2 Gentleman et le championnat de France féminin. D'ailleurs, dans cette catégorie KZ2 Master, le Lavallois Charles Fiot viendra défendre son titre de champion de France. Et puis en foot, le stade Lavallois ne se rendra pas à Bastia lundi. Match du championnat de national reporté après qu'un joueur des Tangos ait été diagnostiqué positif à la Covid-19. Le footballeur va bien mais a été en contact avec d'autres joueurs. L'ensemble du groupe a été placé en isolement. Les autres matchs, eux, sont maintenus. La réception de Boulogne-sur-Mer le 15 octobre et le match de Coupe de France face à Angers-NDC le 18 octobre. Demain aura lieu la journée nationale du commerce de proximité. 4e participation pour les commerçants de Château-Gontier adhérents à l'association Castel Shopping, une animation à laquelle participe une vingtaine de boutiques castro-gontériennes, dont celle gérée par Christelle Travers et Sophie Gachot, coprésidente de Castel Shopping.
La Journée nationale du commerce de proximité, donc la JNCP, qui permet d'ouvrir nos portes à toute personne pour venir voir nos entreprises, pour voir ce que l'on fait et apporter la convivialité entre la relation de nos clients et nous, quoi. On offre des petits cadeaux, on apporte un petit peu de choses conviviales pour nos clients. Les autres années, nous offrions donc des petits cafés, des chocolats, des petits gâteaux. Là, avec le Covid, c'est difficile. Donc moi, je vais faire quelques remises et offrir des cadeaux aussi à mes clientes. Elle apporte une bonne relation donc, avec nos clients et nos clients attendent ça tous les ans.
C'est vrai?
Oui. Donc non, elles apprécient.
Pour moi aussi, c'est la même réaction. Je n'ai pas très longtemps une cliente qui me dit au 10 octobre.
Rendez-vous pris donc par les clients habitués qui pourront profiter d'autres animations présentées par Marion Barré, la nouvelle manageuse de ville de Château-Gontier-sur-Mayenne.
On va pouvoir retrouver à la cave du Gentail, par exemple, un jeu concours en magasin avec un lot à gagner. À la Micaline, on vous proposera donc des promotions sur les viennoiseries. Chez Optique 2000, un test de vue vous sera offert. Chez Claire et Jean-Yves Potier, coiffure, il y a une surprise costumée qui est toujours très attendue chaque année. Il faut y aller, il faut aller découvrir les costumes de cette année. Et puis, on pourra retrouver également chez Beauty Success un soin du visage de 30 minutes. Bio, une offre sur ce soin. Donc voilà, il y a plein de choses à découvrir lors de cette journée du commerce de proximité. J'espère que les gens seront au rendez-vous parce que c'est convivial et puis c'est toujours agréable de découvrir ces commerces ou de les redécouvrir.
À Château-Gontier, ils sont 70 à faire partie de l'association Castel Shopping. Pas tant que ça, alors qu'on dénombre 300 commerçants dans toute la ville. Christelle Travers et Sophie Gachot rappellent l'intérêt de se regrouper en association.
C'est pas pour s'isoler justement, c'est pour partager nos soucis voilà, avec d'autres commerçants et aussi animer nos commerces. Donc le but d'adhérer, voilà, c'est de participer à plein d'animations toute l'année en commun. Voilà.
Un petit peu la même chose, voilà, de ne pas être seul dans son commerce, d'échanger avec les autres commerçants et d'avoir des animations en commun, ouais, c'est important. Si on pouvait être un peu plus d'adhérents, ça serait même bien.
Et après cette journée nationale du commerce de proximité prévue demain, prochaine animation programmée à l'approche de Noël. La maladie d'Alzheimer touche près d'un million de personnes en France, sans compter toutes celles et ceux qui ne sont pas diagnostiqués. Autant dire que nous sommes tous touchés de près ou de loin par cette maladie. On en parle dans 3 minutes, juste après Moriarty avec Every Night. Avec Every Night, vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio. Il y a quelques semaines avait lieu la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, l'occasion de se pencher sur cette maladie qui nous touche tous de près ou de loin, avec le représentant de l'association France Alzheimer 53. Ils sont 1 million de malades en France. Alzheimer touche de plus en plus de personnes. C'est la plus fréquente des maladies neurodégénératives. Une association ici en Mayenne accompagne les personnes touchées par la maladie et leurs proches aidants. C'est bien sûr France Alzheimer 53. Et je reçois aujourd'hui son président, Paul Chouanet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a quelques semaines, le 21 septembre, avait lieu la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. On en a tous plus ou moins entendu parler de cette maladie, mais précisément, qu'est-ce que c'est Alzheimer ?
Oui, c'est une maladie qui a été décrite par un médecin, le docteur Alzheimer, son prénom Aloïs, au début des années 1900, avec une jeune personne, puisque la personne qu'il a décrite avait 52 ans. Et tous les symptômes, qui caractérisent cette maladie, sont surtout d'abord l'oubli. La personne se plaint d'abord d'oublier. Ensuite, elle a des difficultés à s'adapter à sa vie quotidienne autour du maintien de sa maison ou du maintien de sa propre vie personnelle, autour de l'organisation de sa journée, etc. Et ces difficultés vont entraîner une désadaptation progressive de cette personne de la vie quotidienne. Évidemment, lorsque ça frappe des personnes jeunes et qui sont encore au travail, sur un espace de 1 an à 18 mois, ça pose de grandes difficultés pour exercer un métier et une fonction dans une entreprise.
Puisqu'il y a aussi des personnes plus jeunes, on a souvent le cliché de la personne un peu plus âgée qui perd la mémoire, mais c'est pas que ça.
Oui, tout à fait. Oui, il y a des personnes jeunes qui sont atteintes. Bon, la grande majorité des personnes jeunes atteintes sont des maladies d'Alzheimer héréditaires, en fait, hein, et contrairement à la grande quantité des personnes âgées. Hein, on considère qu'il y aurait à peu près 100 000 malades jeunes sur la totalité des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer en France.
Et donc ça se manifeste comment, quand le diagnostic n'a pas encore été posé, à quel moment on peut se dire, là, peut-être que cette personne est malade d'Alzheimer ?
La grande difficulté, au-delà de la plainte au niveau de l'oubli, la personne a une désadaptation de sa vie quotidienne. Elle ne va plus arriver à organiser son futur, par exemple. Elle n'arrive plus à se projeter dans le futur pour dire « j'ai besoin de ça et ça pour faire mes courses et m'alimenter tous les jours ». Et donc, elle va avoir des actions répétitives. Elle va aller faire ses courses, elle va acheter toujours la même chose. Elle ne va plus obtenir non plus un repérage suffisant dans l'espace et dans le temps, petit à petit. Elle va, qu'elle soit lundi, mardi, peu importe, qu'elle soit en hiver, en été, peu importe, elle va vivre en fait au niveau d'un quotidien qui ne se repère plus dans le temps. Elle a du mal avec son âge à déduire sa date de naissance. Elle a du mal aussi à fonctionner sur des heures normales de la journée. Hein. Elle peut se lever la nuit et commencer en fait une journée de vie comme si c'était le matin. Elle peut aussi avoir des difficultés de repérage dans l'espace. Nous, si nous voulons nous repérer dans l'espace, si on veut désirer aller à un endroit dans notre cerveau, on a la cartographie de cet endroit, les rues, les chemins, etc. La personne ne parvient plus non plus à ça. Et donc, c'est pour cette raison que les personnes parfois se perdent en revenant de faire leurs courses ou en allant faire leurs courses. Il suffit que dans la rue, il y ait par exemple des travaux, il y a un grand échafaudage qui ait été monté. Et la personne ne va plus se retrouver dans son espace.
Donc une perte de repère plus globalement.
Oui, avec aussi parfois des atteintes de langage. Hein. Les mots ne viennent plus spontanément, la personne cherche ses mots, parfois confond des mots. Évidemment, là, ce que l'on vous décrit, c'est vraiment très très progressif. Hein. Ça peut demander 2 ans, 3 ans pour progressivement s'installer. Ce que moi je vous exprime là, ce sont aussi ce que disent les familles. Quand les difficultés sont plus grandes et qu'il y a une consultation mémoire qui est faite, les familles souvent rapportent des événements d'avant où après réflexion, il semble qu'il y avait déjà des difficultés en fait. Mais ça n'est qu'à posteriori parce que c'est vraiment une maladie très insidieuse qui va petit à petit un peu miner le quotidien pour désadapter cette personne.
Et donc, c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner vraiment en tant que telle, mais accompagner, c'est notamment l'objectif de votre association ?
Oui, tout à fait, oui. Aujourd'hui, c'est une maladie encore, on parlera peut-être de la recherche, mais dont on ne connaît pas la façon de se développer. On ne connaît rien sur son début, son développement dans le cerveau, et surtout qui n'a pas de traitement en tant que tel, c'est-à-dire une maladie qui n'a pas de médicament. Mais nous avons coutume de dire à l'association qu'une maladie sans médicament ne veut pas dire sans soins. Et que donc on va essayer d'accompagner les personnes, parce que l'entraînement cérébral, permettre à la personne encore d'indicer sa mémoire pour retrouver son chemin, par exemple, permettre à la personne de continuer d'avoir des liens avec les autres pour maintenir son vocabulaire et ses mots, au-delà des soins hein, d'orthophonie, par exemple, au-delà des soins pris en charge par l'équipe mobile Alzheimer de Château-Gontier, par exemple. Et donc, toute cette activité-là va vraiment permettre une continuité de la vie pendant plusieurs années, en fait.
Et ce sont justement grâce aux actions que vous organisez, France Alzheimer 53, l'association a été créée en 2005, et il y a pas mal d'activités aujourd'hui. Quelles sont vos principales actions ?
Oui, donc nous avons donc trois directions dans nos actions, en fait. Hein. On a d'abord des actions envers la personne qui vit avec cette maladie pour essayer donc de lui garder ses capacités en termes de mémoire, hein, en termes d'attention, en termes de permettre de garder les mots et le langage, en termes aussi d'orientation. Donc ces après-midi se déroulent pour Château-Gontier à la mairie annexe de Bazouges, sont animés par une professionnelle, accompagnés par des bénévoles, pour au fil de l'après-midi, avec des activités successives, travailler ces différents aspects de la mémoire. En plus, les personnes sont souvent valorisées, ce qui fait qu'elles vivent de façon très agréable ces moments-là. Les temps de rencontre aussi, puisqu'il s'agit d'un groupe, hein, on ne dépasse pas 6 à 7 personnes pour vraiment avoir une activité pour chacun. Ensuite, on a aussi des activités d'art-thérapie, hein, c'est-à-dire quand les mots deviennent un peu plus difficiles et tout, comment on peut encore être créatif ? Et là, en faisant appel aux apprentissages, aux mots aussi, mais aussi à la réalisation de choses par soi-même, hein, ou des objets, ou des constructions, ou des assimilations, pour permettre de se démontrer à soi-même toutes ses propres capacités. Ça aussi, c'est animé en fait par une art-thérapeute professionnelle. Et nous avons aussi des activités envers les aidants, c'est-à-dire les proches aidants, les familles, avec un soutien par des formations. Actuellement, là, il y a une formation qui démarre la semaine prochaine à Laval. Nous avons par le passé fait aussi des formations sur Château-Gontier. Dès qu'il y a un groupe de personnes suffisant, nous sommes prêts à entamer une formation pour les proches.
Est-ce qu'on ne s'improvise pas aidant, j'imagine ?
Non, c'est vraiment très compliqué parce que la personne, elle a aussi... des difficultés, de stress, si vous voulez. Elle-même, elle est parfois, elle ressent ce qui se passe, elle ressent ce qu'elle perd, et ça la met parfois en grande difficulté par rapport à elle-même, avec des mécanismes de stress, d'angoisse, d'inquiétude, avec des répétitions, avec des questions qui reviennent sans cesse, parce qu'elle est inquiète, en fait, la personne qui vit avec cette maladie. Et elle va, avec son proche, avoir parfois des comportements usants, si je peux dire hein, ce mot-là, c'est-à-dire des comportements répétitifs, des désirs qui ne sont pas bien situés dans le temps, des envies de sortir alors que ce n'est pas le moment, des envies de vouloir faire quelque chose dans la maison alors que ce n'est pas non plus le moment. Et pour l'aidant, ça, ce sont des moments difficiles. En plus, au niveau du vocabulaire, hein, que répondre, comment dialoguer avec une personne dont le vocabulaire s'appauvrit et dont la difficulté aussi de ces questions met l'aidant dans un processus de dire « mais qu'est-ce que je peux répondre à cela ?» quoi.
Donc ça fait aussi partie, bien sûr, des missions de l'association. On aide les personnes touchées par la maladie, mais aussi les personnes qui aident, les aidants familiaux en général.
Oui, absolument. Parce que d'abord, si les personnes souhaitent rester à domicile ensemble le plus longtemps possible, avec l'aide de tous les prestataires du domicile, hein, avec l'aide aussi des financières de l'APA, par exemple, avec aussi les soins, hein, les médecins traitants, les kinésithérapeutes, les orthophonistes, avec les services de soins infirmiers, infirmières libérales à domicile, les services de soins infirmiers, avec les équipes spécialisées d'intervention, tant au niveau de la maladie d'Alzheimer que dans l'amélioration de l'habitat, hein, puisque également à Château-Gontier, sur le sud de Mayenne, il y a une équipe d'évaluation pour réadapter et conseiller au niveau de l'aménagement de l'habitat. Des financements directement faits par le département de la Mayenne autour de différentes aides, permettre aux personnes qui souhaitent rester à domicile de pouvoir dire comment on va pouvoir le faire, comment on va, avec cette maladie, pouvoir continuer. Et c'est pour cela que nous proposons donc différentes formations, différents groupes d'échange également, parce que en fin de compte, beaucoup de familles vivent les mêmes difficultés auprès de la personne, avec la personne malade. Et le fait de partager, de dire comment chacun se débrouille avec ça, comment chacun y arrive, quelles sont les solutions possibles, comment on s'y prend, ce sont tous ces échanges-là qui vont permettre de s'enrichir les uns les autres et de décider de continuer la vie à domicile.
Et donc cette vie à domicile qui est, j'imagine, privilégiée, mais lorsque c'est plus possible, est-ce qu'il existe des unités spéciales Alzheimer ici en Mayenne ?
Oui, il existe des unités spécifiques en Mayenne. De nombreux établissements ont des unités spécifiques, y compris sur le sud Mayenne, y compris à Château-Gontier même. À l'établissement Saint-Joseph, par exemple, il y a des unités, une unité spécifique. Et donc, il y a aussi un accueil de jour pour soulager les familles, un après-midi, une journée par semaine ou parfois plusieurs jours dans la semaine. Les personnes qui vivent avec la maladie peuvent être accueillies en accueil de jour par des professionnels.
On sait aussi aujourd'hui, donc vous le disiez, il n'y a pas de médicaments contre la maladie d'Alzheimer, mais la prévention occupe une part importante. On sait que si on mange équilibré, qu'on fait du sport, normalement ça peut aider un peu.
Pour la maladie d'Alzheimer en tant que telle, il y a peut-être l'alimentation, mais il y a surtout un grand principe, c'est de bien soigner toutes ces maladies. Il faut absolument traiter des maladies chroniques, des maladies qui sont invalidantes avec l'avancée en âge. La première est le diabète. Il faut vraiment bien soigner, équilibrer son diabète. Alors que lorsqu'on est diabétique, on a envie de manger du sucre. Et donc, il faut faire très attention. Il faut aussi soigner son cholestérol, si on a du cholestérol, l'hypertension, s'il y a de l'hypertension, toutes ces pathologies qui multiplient, le diabète multiplie par 6 les chances de maladie d'Alzheimer, l'hypertension multiplie par 4 les chances de maladie d'Alzheimer. Donc, il faut vraiment prendre en charge toutes ces pathologies qui démarrent autour de la trentaine, de la quarantaine, et dont le traitement est purement, là aussi, symptomatique. C'est-à-dire, on n'enlève pas ces maladies de notre organisme, mais avec les thérapeutiques, là, on arrive à vraiment les traiter et vivre tout à fait correctement avec ces maladies. Donc, l'obésité, c'est un problème moderne, mais qui aujourd'hui aussi augmente très, très fortement les risques de maladies d'Alzheimer. Donc, on est plutôt dans le conseil de traiter toutes ces maladies, même si on ne se rend pas compte au quotidien de l'effet des traitements, ils sont très efficaces pour continuer une vie saine et équilibrée et avec son autonomie.
Et justement, là, aujourd'hui, en 2020, quelle est la priorité dans la recherche ou ailleurs pour vous ? Ou quelles sont les priorités d'ailleurs ?
Il y a toujours les recherches sur justement quelle est cette maladie, comment elle naît, pour pouvoir étudier ce processus de commencement et éventuellement pouvoir agir. Donc la recherche est beaucoup autour de cela. Ensuite, la recherche est aussi beaucoup autour de la prévention, on l'a évoqué tout à l'heure, autour aussi du diagnostic. Comment, avec ce que je viens de vous exprimer sur le début, comment diagnostiquer le plus tôt possible pour évidemment essayer de corriger, réentraîner et retarder l'apparition. Ensuite, il y a aussi une recherche autour de la thérapeutique. Quels pourraient être les médicaments qui arriveraient à bloquer le processus de développement de cette maladie. Donc en France actuellement, il n'y a plus de médicaments pris en charge par l'assurance maladie. Par contre, il y a encore des gériatres, il y a encore des médecins qui continuent de donner des médicaments qui avaient prouvé, en France il y a un déremboursement, mais qui avaient prouvé leur efficacité dans cette maladie. Aujourd'hui, il y a un laboratoire américain, Biogen, qui a déposé une demande de mise sur le marché à l'Agence américaine de gestion du médicament. Et ce médicament semble avoir une véritable activité sur les fonctions cognitives et y compris les apprentissages. Et donc ce serait les études qui ont été faites sur quand même presque 1700 malades, ça s'appelle l'étude EMERGE, E-M-E-R-G-E, et on découvre que là il y a une véritable amélioration de l'état cognitif, c'est-à-dire de se souvenir, de se rappeler ses souvenirs, de continuer d'utiliser le vocabulaire, etc., l'attention, la concentration. Et donc, avec aussi une moins grande perte des apprentissages, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de se repérer, etc., et notre activité quotidienne avec ce que nous faisons dans tous les apprentissages que l'on sait. Hein, la conduite automobile, c'est un apprentissage. Cultiver son jardin également. Et donc, il y aurait une activité de ce médicament. Si c'est véritablement vérifié, ce sera le premier grand médicament de la maladie d'Alzheimer.
Eh ben, on va finir sur cette note pleine d'espoir. Merci beaucoup, en tout cas, Paul Choinet, d'avoir été avec nous. Et on le rappelle, vous êtes président de France Alzheimer 53. À noter que l'association compte 180 adhérents et 35 bénévoles, des bénévoles qui pourraient encore accueillir de nouveaux membres, notamment à Château-Gontier. N'hésitez pas à les contacter par mail à francealzheimer53, tout attaché, donc @gmail.com. Une petite pause musicale à présent avec Smokey Joe and the Kid.
Yeah. It's gonna get funky in here tonight. We're gonna send this one out to all you big-legged women. Oh, it's gonna get nasty, I believe it. Listen. It was early in the morning down in old New Orleans. Big-legged woman dropped me down to my knees. She was so fine that it blew my mind. I said, big-legged woman, can I have a little time? I didn't realize who it could be. It was that old voodoo woman, Marie LeBuy. She dropped a spell right down on me. It knocked me back down on my knees. Don't hold me so close, Marie LeBuy. Let me be. Brother, don't let this happen to you. Don't take the woman home till you're sure the love's true. And if a sexy woman's walking down the street, might be that old voodoo woman, Marie LeBuy. This is my story.
on retrouve notre service civique Claire pour une chronique insolite, la revue des réseaux sociaux. Bonjour Claire.
Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique insolite de l'AGT du local. Dis donc Marie, tu as ton permis ?
Oui, bien sûr, pourquoi cette question ?
Est-ce que tu resterais devant un feu rouge qui ne passe jamais au vert ? C'est pourtant ce qu'on retrouve sur le compte Twitter de nos amis de West France. À Angers, des automobilistes sont restés 30 minutes devant un feu rouge qui ne passait pas au vert, ne voulant pas commettre d'infraction. De là s'est formé un gigantesque bouchon. Le feu était juste défaillant, mais a créé une grande confusion auprès des automobilistes. Bon, j'imagine que pour l'actu, toi, Marie, tu serais passée, hein ?
Ah bah oui, on fonce, hein, toujours.
C'est bien ce que je pensais. Faites attention à vous, automobilistes, quand Marie cherche les infos, il n'y a plus de feu rouge.
Oui, alors si des gendarmes nous écoutent, ce n'est pas vrai du tout.
Ah oui, tiens.
À garder mes 12 points sur mon permis.
Oh là là, allez, on continue avec des nouvelles de nos voisins, les Bretons, et plus particulièrement à Brest, où un passant a donné un ticket à gratter à des personnes sans domicile fixe passant par là. C'était un ticket gagnant. Devine la somme qu'il y avait sur le ticket, Marie ?
Je crois avoir entendu parler de cette histoire, 5000 euros ?
Bah écoute, presque, juste 10 fois plus. Les 4 hommes vont se partager 50 000 euros, dis donc, ça change une journée, ça, hein ? Tu sais ce que tu ferais avec une telle somme ?
Si j'ai le choix, je pense que j'irai aux États-Unis. Et d'ailleurs, ça tombe bien, ouais. Puisque les États-Unis, c'est là où un compte Twitter a explosé les scores d'abonnés. Celui... Alors oui, je lis bien ce que vous venez de me dire, Claire, la bouche de Mike Pence.
Et oui, bon allez, je vous explique. En fait, lors d'un débat entre le vice-président américain Mike Pence et la sénatrice Kamala Harris, une mouche s'est tout simplement posée sur le front du vice-président, déclenchant sur Twitter une volée, bon allez, c'est le cas de le dire, de messages hilars. Un compte Twitter s'est créé, Mike Pence Fly, en anglais, la mouche de Mike Pence, avec un tweet qui a particulièrement été partagé, je cite « Tout le monde est jaloux parce que j'ai eu le meilleur siège pendant le débat ».
Oh là là, pour une mouche, oh là.
Vraiment. Allez, John Biden, démocrate en lice pour les présidentielles, a tout de suite réagi et a posté une photo de lui tenant une tapette à mouche. Enfin bref, tout ça pour un débat où on a entendu les mouches voler.
Oh Claire, quelle blague magnifique.
Non, mais, voilà, c'est tout moi, désolée. Hein. Voilà, allez, c'est tout pour moi et mes blagues. Merci Marie, on se revoit bientôt pour une nouvelle revue des réseaux. À plus.
Merci Claire et on rappelle que vous pouvez nous retrouver l'autre radio sur Twitter et bien sûr sur Facebook. On poursuit notre petite tournée des chroniques avec ce vendredi un tour d'horizon du service civique dans la région. Une chronique en partenariat avec différentes radios associatives des Pays de la Loire. Et aujourd'hui, direction l'Île-Dieu avec Laurent de Neptune FM.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission ? Et quel constat du côté des structures accueillantes ? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Durant ce rendez-vous, Anaïs Vaignan, chef de projet à l'association Youki, nous a ouvert ses portes. Mais aussi Georges Biraud, le président du collectif agricole, nous reçoit dans son jardin de la mer. Manuel Guillon, le responsable du service culturel à la mairie de Île-Dieu. Et pour Philippe de Brémond-Ars, le président de l'association Musique Aïeux, le dispositif est connu et serait prêt à accueillir une personne en service civique.
J'ai envie de lui dire oui, parce qu'il y a quand même des choses à découvrir quand on organise un spectacle et un concert. Chose de sympa. Toute la partie cachée, j'allais dire, le côté administratif, le côté recherche des artistes, le côté négociation, le côté technique, l'installation. Il y a vraiment un ensemble de paramètres et de facteurs qui fait que le spectacle doit être réussi.
Dans les associations de cirque Youki à l'Île-Dieu et Babel à Nantes, Anaïs Vaignan, chef de projet, connaît également le dispositif, mais n'a recruté aucune candidate et aucun candidat.
On nous a fait la demande sur, on va dire, sa jumelle sur le continent d'associations. Il y a Association Youki à l'Île-Dieu, il y a eu Association Babel sur le continent. Et sur le continent, on nous a demandé plus souvent ce genre de choses. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Parce qu'on n'était pas assez, on n'avait pas assez de travail à fournir au service civique, tout simplement. À Lille-Dieu, ça serait la même chose.
Georges Biraud, président du collectif agricole, lui aussi connaît le dispositif, mais le recrutement sur Lille-Dieu n'est pas simple du fait de l'insularité.
On a demandé l'agrément, l'agrément a été accordé, et ensuite on voulait recruter un service civique pour pouvoir animer les ateliers alimentation durable au printemps. Ça s'est pas fait, pour non pas à cause du Covid, mais c'est parce qu'on a trouvé plusieurs personnes, mais qui n'étaient pas de l'Île-Dieu. Et ça, c'est un gros handicap, parce qu'en fait, les personnes, elles n'avaient pas de logement. Donc, l'indemnisation du service civique est trop faible pour pouvoir se payer un logement et quand même avoir un peu d'argent pour se nourrir, faire un peu de loisirs et tout ça, quoi. Donc, il y en a eu trois personnes vraiment intéressées puis qui ont abandonné à cause des problèmes d'argent. Mais oui, après, de fait, le problème, c'est on peut pas repartir le week-end comme on veut, surtout l'hiver. Il y a un bateau le matin, un bateau le soir, c'est pas évident, quoi.
L'engagement en service civique est intéressant, notamment pour les personnes en recherche d'emploi. Georges Biraud, président du collectif Alcool du Île-Dieu.
C'est intéressant parce que quelqu'un qui est en attente de travail, ça peut être un moyen d'avoir quelque chose à mettre sur son CV. Il a une expérience professionnelle. Ça peut être très intéressant pour des personnes en recherche d'emploi, quoi.
Georges Biraud, président du collectif Alcool, s'étonne qu'aucun îlet n'a postulé, mais a peut-être le début d'une explication.
Exactement, on n'a eu aucun îlet à postuler et c'est ça qui nous a étonnés parce que y a quand même un certain nombre de gens qui sont au chômage. Alors peut-être que là justement, ça vient du fait que les chômeurs, par exemple, ne sont pas au courant du service civique. Après, de savoir ce que c'est le service civique, en quoi ça consiste, la rémunération et tout ça, bon, je crois que peu de gens sont au courant en fait.
Malgré ces différents freins, le collectif agricole de l'Île-Dieu n'exclut pas le recrutement d'un service civique.
Pourquoi pas l'année prochaine, par exemple, si, parce que là, finalement, l'animation des ateliers alimentation durable, on a recruté une personne à un cinquième de temps pour pouvoir les animer. Et c'est vrai que si on voulait continuer les ateliers l'année prochaine et qu'on pouvait avoir un service civique, pourquoi pas.
Pour finir, Manuel Guillon, responsable du service culturel à la mairie de Lille-Dieu, connaît également le dispositif. Si un volontaire se présente, il pourrait l'accueillir.
Très volontiers, oui, je pense. Enfin, après, c'est à voir avec l'ensemble de l'équipe. Moi, je n'impose rien aux équipes. Donc, c'est en voir en concertation avec les équipes. Mais oui, s'il y avait une demande, je pense qu'on l'étudierait avec bienveillance, en tout cas.
Laurent, Radio Neptune FM, à Lille-Dieu.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités. Une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Dernier jour de la semaine et dernier épisode de notre série sur la coutellerie du Ménanjou à Saint-Sulpice. Vous l'avez compris, donc on y fabrique des couteaux, mais pas seulement. Antoine Faucheux et son équipe se transforment parfois en éclusiers pour les bateaux qui naviguent sur la Mayenne, on l'écoute.
Dans un cadre qui est assez incroyable, on est vraiment quasiment les pieds dans l'eau. Mais si on pouvait éviter d'avoir les pieds dans l'eau, ce serait pas mal quand même. Mais l'eau est à 10 mètres, quoi. La Mayenne est à 10 mètres. On est aussi éclusier. On est éclusier 6 mois dans l'année, du 1er avril au 30 septembre. On mesure tous les jours la chance qu'on a de pouvoir travailler dans un cadre comme ça, voilà. Nous, on a déjà pleinement confiance, c'est-à-dire que, quand on est en train de faire passer un bateau, je dis on parce qu'on est trois à travailler dans la coutellerie. Quand on est en train de faire passer un bateau, soit on est tous les trois, et il y en a un qui reste dans l'atelier, et il y en a deux qui restent dans l'atelier, et puis il y en a un qui va faire passer le bateau, ou alors quand on est tout seul, on laisse l'atelier un petit peu seul, et puis on va faire passer le bateau, mais après c'est pas très loin, hein, c'est à 10 mètres, et puis en général, quand il y a un bateau qui arrive, les gens qui sont dans la boutique sortent pour aller voir le bateau passer, donc finalement ça se passe plutôt bien. On a plus de 5000 personnes à rentrer dans l'atelier par an, on a à peu près 1000 passages de bateaux. Je n'ai pas compté le passage des vélos et des gens à pied, mais il y a beaucoup de promeneurs ici. Et puis c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un restaurant qui est juste à côté. Et puis le flux du restaurant aussi fait qu'on a beaucoup de visiteurs. Ouais. C'est un point de promenade, c'est-à-dire que les gens partent de Château-Gontier, viennent se promener à pied jusqu'ici et repartent après à Château-Gontier. Il y a le pont de la Valette qui est entre Villiers-Charlemagne et Housset. Et pareil, les gens se garent ici, viennent se promener jusque-là et repartent. Bon, moi, je suis pas objectif, mais je trouve que c'est le plus bel endroit sur le bord de la Mayenne, voilà. On a eu une formation qui a été dispensée par le conseil départemental. On parle de quelques heures. Après, c'est quelques heures, mais en même temps, c'est pas non plus extrêmement compliqué. Et puis, on apprend aussi sur le tas, parce que on nous dispense les règles de sécurité, les consignes quand le bateau rentre, voilà, le moteur doit être arrêté, les gens doivent se tenir aux cordes.
Antoine Faucheux s'est donc vite adapté à sa nouvelle casquette d'éclusier. En plus de la fabrication des couteaux, il propose aussi des stages destinés à un public très varié.
On a des gens qui viennent se spécialiser, qui fabriquent quelques couteaux dans leur garage, et ils viennent apprendre des techniques, comment travailler le bois, comment travailler le métal, les bleus polissages, les rivetages, enfin il y a plein de choses. Et puis il y a des gens qui découvrent complètement, c'est-à-dire que il y a des gens qui leur font la surprise de venir fabriquer un couteau, c'est juste en ouvrant la porte de l'atelier, je vais fabriquer un couteau aujourd'hui, voilà. Donc il y a vraiment tout type de profils. On a des experts et puis on a des novices absolus, mais ça se passe bien à chaque fois. On a plusieurs formules de stage. On a une formule sur une demi-journée où vous fabriquez un couteau pliant et vous repartez avec le couteau que vous avez fabriqué. On a un stage sur une journée où là on va beaucoup plus loin dans le détail. Et on a un stage sur 2 jours où là, vous dessinez votre couteau et vous fabriquez le couteau entièrement de A à Z.
Nouveau feuilleton radio la semaine prochaine, dédié à l'agriculture bio, l'agroforesterie et d'autres manières de s'occuper de l'environnement. Mais avant ça, jetons un œil sur l'agenda de ce week-end. C'est le retour du bricovélo demain à Laval avec l'association Place au Vélo qui propose de réparer, régler et entretenir vous-même votre vélo. Atelier prévu de 10h à midi chez Bicyclem, 46 rue du Lieutenant à Laval. Il vaut mieux s'inscrire avant au 06 02 09 25 06. C'est le cœur de la fête de la science. Le village des sciences se tient tout ce week-end au musée scientifique Le Zoom à Laval. Ouverture demain samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h. Vous y retrouverez une dizaine d'acteurs mayennais issus du milieu associatif des collectivités de l'enseignement supérieur pour partager avec vous leur savoir-faire et leurs connaissances sur les sciences à travers des jeux et des expériences. Vous pourrez retrouver notamment les tours de magie scientifiques des médiateurs du Zoom. Un joli spectacle ce dimanche à 16h aux Angenoises à Bonchamp. 4 ans après leur première création, chanson pour les yeux et les oreilles, Albaric 4 revient sur scène avec un nouveau défi. Raconter l'Odyssée en 1 heure, à 2 et en chanson. Ça s'appelle Ulysse maudit sois-tu et c'est toujours en français et en langue des signes qu'il raconte cette fois-ci les absurdités du voyage ou les passions amoureuses d'Ulysse. Réservation au 02 43 91 45 10. C'est la fin de notre émission L'Agité du local. À suivre à 19h l'agenda avec l'interview de Yann Bieuzan, le directeur de la salle de spectacle de Laval, le 6x4. Puis à 20h, passe-moi le thème, l'émission de ce soir mettra à l'honneur un instrument, le violoncelle. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi à 12h15 pour une nouvelle édition de L'Agité du local. Passez un très bon week-end.
Reportage,
invité, interview.
Voilà, c'est l'agité du local.